από την Ευρώπη.
Ρεσκούτσια Ευρώπη.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. En Biélorussie, 7 mois après son élection frauduleuse du 9 août dernier, élection que l'Union européenne n'a pas reconnue, Alexandre Loukachenko a réussi à se maintenir au pouvoir au prix d'une répression féroce, de milliers d'arrestations et du soutien de Vladimir Poutine. Avec l'hiver, les grandes manifestations qui avaient envahi les rues de Minsk cet été ont disparu. La quasi-totalité des dirigeants de l'opposition a été arrêtée ou a dû se réfugier à l'étranger, à l'image de Svetlana Tikhanovskaya, l'ex-candidate à l'élection présidentielle qui, selon les observateurs, a remporté le scrutin du mois d'août dernier. Au creux de la vague et à la veille du printemps, l'opposition biélorusse est à la recherche d'un nouveau souffle. Peut-elle le trouver? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints, tantôt dans le studio 21 de RFI, tantôt par téléphone. Pandémie oblige. Anna-Colin Lebedev, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre et vous connaissez particulièrement bien et la Russie et la Biélorussie. Vous êtes d'ailleurs, on peut dire presque une habitude au Carrefour de l'Europe. Et Katharina Pierson-Lizinia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes assistante à l'ULB. L'ULB, c'est l'Université libre de Bruxelles. En toute logique, ben, vous êtes en ligne de Bruxelles. Andriy Vaitovitch, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Vous êtes journaliste franco-biélorusse. Jeune journaliste, on peut encore le dire?
On peut le dire. Oui.
Vous avez passé beaucoup de temps et à Minsk et en Lituanie où l'opposition biélorusse a trouvé refuge, en tout cas pour une bonne partie d'entre elles. Alexandre Lavignette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue et professeur de sciences politiques. Merci d'être en ligne de Minsk, la capitale de la Biélorussie. Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International ce dimanche avec Sacha Mitchell. Alors, Andriy Vaitovitch, il y a un petit point de sémantique que je voudrais régler avec vous. C'est le nom de votre pays. Ici, en France, on parle plutôt de la Biélorussie, alors que presque partout ailleurs, on dit le Bélarus. Alors, Bélarus, c'est la traduction de Biélorussie ou pas exactement? C'est peut-être un peu plus compliqué que ça.
C'est un petit peu plus compliqué, exactement. En effet, en fait, la Biélorussie, c'est l'ancien nom qu'on utilisait pendant l'URSS, la République soviétique de la Biélorussie. Et du coup, après l'indépendance, dans les années 90, le pays a changé de nom. C'est la République du Bélarus, en russe ou en Bélarus. Et du coup, dans toutes les langues étrangères, en tout cas, ça se traduit comme le Bélarus. Donc, je sais qu'en France, c'est une question assez délicate, mais par exemple, j'ai toujours des contre-exemples. En français, la Poste ou l'ONU ou l'OSCE utilisent le nom de la République du Bélarus et pas la Biélorussie.
Bon, alors vous, en tout cas, vous préférez Bélarus plutôt que Biélorussie?
Exactement, bon. Je désoviétise le nom.
Bon, on va essayer de... Ben, je sais pas si... Je suis encore habitué, moi, à dire Biélorussie. Je pense que je lirai encore de temps en temps. Mais peut-être que je vais dire au cours de l'émission Bélarus, peut-être pour vous faire plaisir. En tout cas, l'actualité est cruelle. Au mois d'août et de septembre dernier, les journaux télévisés ouvraient régulièrement sur les images de ces immenses foules qui défilaient pacifiquement dans les rues de Minsk, la capitale, et dans les principales villes du pays, en agitant un drapeau rouge et blanc qui, entre parenthèses, n'est pas le drapeau officiel du Bélarus. Avec une revendication, nous voulons des élections justes et honnêtes. Et puis, une actualité chassant l'autre, ce sont aujourd'hui les images des opposants à la junte birmane que nous voyons aujourd'hui sur nos écrans. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Ces manifestations au lendemain de la proclamation de la victoire d'Alexandre Loukachenko, qui officiellement aurait remporté l'élection présidentielle avec 80% des suffrages, ont scandalisé la population qui est spontanément descendue dans les rues. Andriy Vaitovitch, ce sont les plus grandes manifestations que le Bélarus ait connues.
C'est du jamais vu, en effet. Et en fait, tout est commencé même avant l'élection, pendant la campagne électorale, qu'on a vu ces files d'attente interminables des gens qui voulaient laisser leur signature pour les candidats d'opposition, les alternatifs. Et finalement, après le 9 août, je pense que tout le monde savait que l'élection serait truquée. On avait quand même l'espoir, mais tout ce qu'on a vu dans les semaines qui suivaient l'élection, c'était les manifestations sans précédent dans l'histoire qui duraient quand même et qui même durent aujourd'hui, pas de même ampleur, mais ça continue tous les jours.
Alexandre Lavignette, spontanément, lors de la proclamation des résultats, la population est descendue dans les rues. Elle a eu l'impression qu'on lui avait volé sa victoire.
Oui, ben, il y avait des preuves que Svetlana Tikhanovskaya, la candidate unique de l'opposition, aurait remporté ce scrutin. Mais le trucage des élections, c'est l'affaire habituelle pour Alexandre Loukachenko. Donc, une fois de plus, les résultats ont été forgés. Et du coup, les gens étaient prêts à descendre dans les rues et ils l'ont fait. c'est vrai que personne ne s'attendait à une telle ampleur, à une telle échelle, et ça a duré pendant des mois. Et beaucoup de Bélarussiens sont fiers d'avoir manifesté pacifiquement. Et après, ce qui s'est déroulé, donc c'est la répression qui continue. Chaque jour, on apprend l'information sur les nouveaux jugements. On a de plus en plus de prisonniers politiques. Et donc, le pays a été submergé par les répressions, par la peur. Et c'est vrai qu'il y a moins de mobilisation. Donc, le mécontentement n'est pas parti. Donc, les gens, le régime ne peut pas compter n'est pas légitime. Il n'a pas de soutien au sein de la société, mais on a malheureusement, à travers l'histoire, des cas où une minorité armée pouvait se maintenir au pouvoir pendant assez longtemps. On espère que ça changera. Et il y avait beaucoup de conversations sur le renouveau des manifestations avec le printemps. On va voir ce qui ça va donner. Donc la date la plus proche, c'est le 25 mars, justement l'anniversaire de la proclamation.
Alexandre Lavigne a décidément liaison difficile avec Minsk. Bon, Andrei Vaitovitch, on va revenir évidemment sur la répression du régime d'Alexandre Loukachenko. De la même façon qu'on a parlé du nom du pays Biélorussie et Biélorusse, ce deuxième drapeau qui est apparu dans les rues de Minsk et dans les rues des grandes villes du Biélorusse, ce drapeau blanc et rouge, il a lui aussi une signification parce que c'est pas du tout le drapeau officiel du Biélorusse.
C'est exactement cela. C'est le drapeau national qui a été utilisé par la République du peuple du Bélarus, qui a été proclamé d'ailleurs en 1917, dont Alexandre voulait parler. C'est le 25 mars qu'on célèbre en fait l'indépendance du Bélarus. Sauf que ce drapeau, pendant l'URSS, a été banni, interdit. Il a été remplacé par le drapeau soviétique. Et uniquement après la chute de l'URSS, il est revenu pendant quelques années jusqu'au l'arrivée de Loukachenko au pouvoir. C'est lui qui l'a interdit aujourd'hui. Il veut l'interdire, bannir, voire qualifier d'un drapeau extrémiste ou fasciste, si vous voulez.
Alors, le pouvoir a été décontenancé par l'intensité des manifestations au lendemain de ces élections, le 9 août dernier. Mais il a très rapidement organisé la répression, manifesté au Bélarus et prendre beaucoup de risques.
Oui, et vous savez, c'est pas le premier soir après l'élection où on avait des foules. Moi, j'y étais dans le centre de Minsk, et vous savez, il faut le dire, il faut rappeler que pendant 3 jours, on n'avait pas d'internet. Le réseau téléphonique marchait à peine. Nous, après la fermeture de vote, nous étions au QG de la campagne avec Svetlana Tikhanovskaya, avec d'autres femmes qui ont fait le trio. Et c'est par téléphone qu'on apprenait ce qui s'est passé à Minsk. C'est par téléphone qu'on a commencé à apprendre que certains bureaux de vote publient les vrais chiffres où Svetlana Tikhanovskaya gagne. Et c'est dès qu'on a appris qu'il y a des émeutes, il y a la répression, la police utilise le gaz lacrymo et les grenades de dispersion, c'est tout de suite, tous les journalistes sont rués là-bas, dans le centre de Minsk, et c'est là où on a vu ce qui s'est passé réellement. Et c'est que uniquement après quelques jours, dès qu'on avait l'internet qui était de retour, on a commencé à apprendre ce qui s'est réellement passé dans les centres de détention. Je parle bien sûr des cas de torture. Aujourd'hui, il y a presque plus de milliers de cas de torture avérés, reconnus par l'ONU. Et dès que les gens ont vu ces images, dès que les gens ont vu les gens sortir, mais tabassés, qui n'avaient presque plus rien d'humain, parce qu'on ne comprenait pas que ce genre de choses peut se passer au cœur de l'Europe en 2020. Donc, et après cela, je pense que les gens étaient tellement en colère, et la colère n'est pas disparue. Certes, aujourd'hui, on n'a pas de milliers de personnes tous les week-ends, mais parce que la répression est très forte. Les gens ne veulent pas aller en prison, personne ne veut se sacrifier la vie, mais la colère n'a pas disparu, les gens sont toujours en colère, et les gens ne reconnaissent pas ce que ce régime fait aujourd'hui, en tout cas, essaie de faire.
Anna Kolanebedev, le temps finalement a joué en faveur d'Alexandre Loukachenko. Certes, la répression est devenue de plus en plus féroce, plus de 33 000 arrestations, notamment des journalistes. Il y a la lassitude des opposants avec l'arrivée de l'hiver. C'est vrai que c'est plus difficile de manifester dans un pays comme la Biélorussie où l'hiver est très rigoureux. Et puis il y a le Covid. Tout ça a joué un petit peu en faveur de Loukachenko.
Alors, je dirais qu'à court terme, effectivement, on a l'impression qu'il y a une victoire tactique de Loukachenko qui a réussi à diminuer le volume des protestataires dans les rues. Cependant, il faut bien être conscient que ça n'a pas diminué en fait le nombre de personnes mécontentes du régime en place, nombre qui avait littéralement flambé au moment des élections présidentielles et surtout après les élections présidentielles. Et les Biélorusses ne sortent pas dans la rue aujourd'hui parce que la répression est féroce, parce qu'il fait froid, parce que les forces de l'ordre peuvent réprimer beaucoup plus facilement de grands rassemblements que d'autres types d'actions. Mais en revanche, les Biélorusses maintiennent en fait le pouvoir politique sous une tension permanente par des actions plus ponctuelles, d'ampleur plus limitée, des actions de quartier, des happenings, des mini-piquets avec qui circulent ensuite sur les réseaux sociaux. En ce moment, en fait, les Biélorusses ont besoin de revenir à leurs activités quotidiennes parce que la survie économique est aussi quelque chose qui compte énormément pour un citoyen biélorusse au quotidien. Il est trop risqué de sortir dans la rue pour l'instant, mais il signifie au pouvoir, néanmoins, on est toujours là. La société n'est pas apaisée. Hein, et je pense que cette tension, Loukachenko la perçoit très bien.
Alexandre Lavinas, si vous êtes toujours en ligne de mire, c'est parce qu'on a quelques difficultés, mais si vous êtes là, je vais quand même vous poser cette question. Aujourd'hui, quand on veut manifester son mécontentement à l'égard du pouvoir central de Minsk, comment s'y prend-on? On se promène avec le fameux drapeau rouge et blanc, où c'est trop dangereux, on tape avec des casseroles sur son balcon. Comment peut-on encore expliquer, manifester au pouvoir qu'on est en désaccord avec lui?
Bon, c'est devenu dangereux de marcher avec le drapeau blanc, rouge, blanc. Il y a très peu de cas. Il y a des cas où les gens se font des photos, prennent des photos en cachant leur visage et puis mettent sur Internet des photos en se réunissant dans leur quartier. Mais on a aussi une sorte de chasse au rassemblement des quartiers. Donc cette campagne de chasse organisée par le régime. Justement, hier, il y a eu deux séries d'arrestations dans deux quartiers, donc des dizaines de personnes qui ont été arrêtées. Et après le 1er mars, donc il y a un nouveau code de délit, soi-disant délit administratif, et donc les gens sont accusés, sont condamnés à 30 jours de prison pour avoir aussi résisté aux agents de police. Donc la manifestation, le mécontentement, c'est par la communication entre les gens et aussi parfois c'est même l'usage de la langue biélorusse qui est aussi un des marqueurs. Hier je suis allé voir un docteur, donc c'est pas assez répandu de parler de la Russie. J'ai parlé de la Russie, elle m'a répondu. On s'est compris que on partage les mêmes idées. Et aussi une autre chose aussi très récente. Il y a deux jours, il y avait un nouveau film qui est sorti, tourné par les jeunes Biélorussiens qui opèrent depuis Varsovie, un canal Telegram, donc Nirta, qui ont été d'ailleurs reconnus par le régime comme les extrémistes. Ce film a été déjà marqué 3,5 millions de visites et l'audience est importante et aussi il y avait plusieurs réactions là, discussions.
C'est-à-dire un tiers de la population, à regarder ce film, on comprend qu'elle reste mobilisée. Andrei Vaitovitch, aujourd'hui, il y a une femme qui personnifie l'opposition, elle s'appelle Svetlana Tikhanovskaya, elle a 38 ans. Je suis très tenté de dire qu'elle personnifie l'opposition malgré elle, car rien ne la prédisposait à être la leader de l'opposition.
Ouais, elle est devenue le visage de cette révolution malgré elle. Elle est devenue parce que son mari a été empêché de participer aux élections.
C'est lui qui devait être le candidat.
Exactement, le blogueur qui avait sa chaîne YouTube, qui voyageait autour du pays pour montrer la réalité, comment les gens simples, ordinaires vivent dans les campagnes et dans les petites villes. Et finalement, il a été arrêté assez rapidement et c'est elle qui propose sa candidature sans attendre ce qu'il dit à chaque fois, d'être enregistrée. Finalement, c'était le cas. Elle a été enregistrée officiellement candidate. Je pense que c'était pour elle, c'était aussi une surprise. Parce que vous savez, C'était une erreur stratégique de Loukachenko. Il pensait que les femmes ne peuvent rien faire dans la politique. Ça, tout le monde va se moquer d'elles. Mais finalement, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on voit un visage qui représente une bonne partie de la société civile belarusse qui se bat et qui, ce qu'elle a fait en 6 mois, est juste incroyable. Je veux dire, le nombre de rencontres avec les chefs d'État qu'elle a fait en 6 mois, Loukachenko n'a pas fait en 30 ans. Donc c'est vraiment qui est quelqu'un qui n'avait pas de carrière politique.
Pas d'ambition.
Pas d'ambition, exactement, mais qui est devenu aujourd'hui cette porte pour beaucoup de gens. En tout cas, pour la société civile qui et pour les gens qui comment dirais-je, pour les bien-pensants, elle représente pour les gens sur place. Je ne pense pas, parce que moi je suis en contact toujours avec les Bélarusses, avec mes personnages que j'ai filmés cet été. Bien sûr, ils la connaissent, ils l'apprécient, ils la soutiennent, mais c'est pas seulement ça pour les gens. Quelqu'un l'a dit au début de l'émission, que les gens continuent leur vie ordinaire. Et la vie ordinaire, c'est voilà, de se lever, de se faire à manger, d'aller au travail, de gagner de l'argent, d'éduquer ses enfants. Et c'est pas les aspects géopolitiques qui intéressent les Bélarusses lambda.
Encore un petit mot sur Svetlana Tikhanovskaya. Elle s'est réfugiée en Lituanie. C'était une question de très grande sécurité pour elle.
C'est pas réfugiée. Elle était poussée à la frontière. Elle était poussée dehors de son pays. Parce que moi, je l'ai vu pour la dernière fois, le lendemain de l'élection. Elle décide alors avec l'équipe de porter plainte contre les fraudes massives. Elle va à la commission électorale centrale. Il y avait peut-être 4-5 journalistes, dont moi. Donc elle arrive, elle rentre dans le bâtiment. Et elle ne sortira plus. On apprendra que 20 heures après, qu'elle est finalement en Lituanie. Pendant 24 heures, on n'avait pas de nouvelles. Et finalement, on n'a toujours pas tous les éléments, ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de cette commission électorale. En tout cas, il est clair qu'elle a été intimidée, peut-être menacée, et que pour elle, c'était le choix n'était pas facile. Soit elle reste, mais elle va quand même en prison, parce que il n'y a pas d'autre solution. Soit elle l'accepte et elle part. Donc elle est partie parce que déjà ses enfants, elle a 2 enfants, ils étaient déjà en Lituanie depuis plusieurs semaines. Donc finalement, elle décide d'y aller. La propagande officielle publie une vidéo d'elle où elle dit que voilà, il faut s'arrêter, il faut se calmer, etc. Bien sûr, on comprend que elle a été forcée de dire ce genre de choses. Et finalement, une journée, 24 heures plus tard, elle fait la vidéo où elle explique. Et après, on sait ce que s'est passé. Le tour d'Europe, les rencontres avec les chefs d'État, avec le président Macron, avec Angela Merkel, etc. Et elle continue. Actuellement, elle est en Suisse. Donc, vous voyez, l'agenda est très chargé. Et c'est vrai que pour une femme, un foyer, qu'elle était,
foyer, oui.
Exactement, il y a encore 7-8 mois, aujourd'hui, c'est une femme qui est reconnue, en tout cas, ou écoutée par les hommes et les femmes politiques en Europe.
Et Katerina Pierson-Lizina, on a dit que, finalement, Svetlana Tikhanovskaya était en Lituanie. La Lituanie est avec la Pologne le principal pays en Europe qui soutient l'opposition biélorusse. Alors, il y a eu une demande d'extradition d'Alexandre Loukachenko de Svetlana Tikhanovskaya, et le ministre des Affaires lituanien était très ferme. Il a eu cette formule: il fera froid en enfer quand nous examinerons votre demande. La Lituanie et la Pologne sont les pays les plus proches de la Biélorussie aujourd'hui, et peut-être historiquement.
Oui, en fait, la Lituanie et la Pologne, ce sont les deux pays qui ont un engagement depuis longue date pour l'opposition au Bélarus. Notamment, il y a l'université humanitaire belarusse qui est exiliée en Lituanie. Donc, ce sont deux pays qui sont toujours très critiques vis-à-vis des violations des droits de l'homme au Bélarus. Donc, leur solidarité, pour moi, n'est pas du tout étonnante. Donc, ce sont deux pays membres de l'Union européenne, en fait, qui remettent le Bélarus à l'agenda de l'Union européenne, qui font une sorte de lobby des intérêts des forces démocratiques au sein de l'Union européenne.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
fond de l'Europe, où en est la Biélorussie, où en est l'opposition biélorusse, au creux de la vague, à la veille du printemps, l'opposition biélorusse est à la recherche d'un nouveau souffle. Nous sommes avec Anna Colin-Lebedev, avec Ekaterina Pierson-Lizina, avec Andrei Vaitovitch et avec Alexandre Lavignette. Anna Colin-Lebedev, d'une manière générale, l'opposition biélorusse, à travers sa présidente, la présidente élue, celle qui représente l'opposition en Biélorussie, Svetlana Tikhanovskaya, elle n'arrête pas de dire que son pays est un peu oublié et peu soutenu par la communauté internationale et notamment par l'Union européenne et les grands pays européens, si on laisse de côté la Lituanie et la Pologne. Il y a bien eu des sanctions contre les principaux responsables du pays. Je crois que c'est 88 personnes qui sont concernées, qui ne peuvent plus voyager au sein de l'Union européenne, et on a bloqué leurs avoirs dans les différentes banques qu'ils pouvaient avoir. Svetlana Tikhanovskaya a reçu le prix Sakharov, donné par le Parlement européen, mais l'opposition biélorusse se sent un petit peu seule au sein de l'Union européenne.
Alors, je pense que rarement la Biélorussie a bénéficié d'autant d'attention de la part de l'Union européenne qu'aujourd'hui. Hein. À mon avis, les yeux des institutions européennes sont braqués sur ce qui se passe au Bélarus. Et d'ailleurs, la vidéo qu'évoquait Alexandre Lagvignette sur la corruption du président Loukachenko a provoqué également une réaction de l'Union européenne, dans la mesure où ce qu'on y voit notamment, c'est le détournement d'argent de projets environnementaux soutenus par l'Union européenne pour l'enrichissement personnel du président, la réception de ses résidences. Mais je pense que ce qu'il faut avoir bien en tête aujourd'hui, c'est que mis à part des relations économiques où effectivement l'Europe est un partenaire important, en termes politiques, les acteurs du pouvoir biélorusse sont très peu dépendants de l'Union européenne. Hein, ils sont très peu en relation avec l'Union européenne. Donc l'Union européenne, en tant qu'institution, a un pouvoir d'intervention qui reste extrêmement limité. Hein. Les sanctions, certes, ont été adoptées, mais je dirais l'adoption de ces sanctions était très importante pour les institutions européennes elles-mêmes, pour indiquer les valeurs auxquelles elles tenaient, plus qu'efficace, hein, importante symboliquement, peu efficace sur le court terme en termes pratiques. Hein. Les hommes et femmes politiques biélorusses, les personnes proches du pouvoir dans ce pays, en fait, sont relativement peu liées à l'Europe aujourd'hui.
Est-ce que vous diriez, Anna Colin-Lebedev, que pour l'Union européenne, la principale crainte, ce serait que le Bélarus devienne comme une nouvelle Ukraine, c'est-à-dire un ensemble un peu ingérable où l'Union européenne se sent relativement mal à l'aise?
Alors, je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est que le Bélarus est un pays voisin. On est dans du voisinage très proche de l'Union européenne. C'est un pays frontalier de l'Union européenne et l'Union européenne s'attache quand même dans ses politiques à sécuriser son voisinage, à pacifier son voisinage, à avoir des relations apaisées dans son voisinage. Donc oui, la crainte du désordre est là, mais aussi je pense que ce pays est perçu par l'Union européenne comme une zone tampon, hein, un pays tampon, le dernier pays tampon entre l'UE et la Russie. Et à ce titre, il est très important en termes de relations extérieures.
On connaît peu le Bélarus, un pays de 9 millions et demi d'habitants, très marqué et meurtri par la Deuxième Guerre mondiale, qui a beaucoup souffert de l'explosion de la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl. On connaît son président, forcément, au pouvoir depuis 27 ans. On dit souvent, en parlant du Bélarus, qu'il est resté un pays très soviétisé, où l'agriculture et l'industrie lourde dominent. Ce n'est pas faux, mais il existe une Biélorussie high-tech. Et pour s'en convaincre, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
De Biélorussie high-tech, c'est ce que nous explique la revue lituanienne IQ, publiée en partenariat avec le magazine The Economist. Les choses ont changé dans la dernière dictature d'Europe, et en une quinzaine d'années, le régime a réussi à créer un petit miracle économique et technologique.
Absolument, Daniel. Tout commence en 2005. À l'époque, le président Alexandre Loukachenko donne son aval pour la création d'un parc des hautes technologies. Son but, c'est alors de satisfaire une partie des technocrates du régime plus libéraux et qui réclament des décisions plus audacieuses. Grâce à cette Silicon Valley biélorusse, le secteur a considérablement grandi en l'espace de 15 ans et contribue aujourd'hui à hauteur de 5,5% du PIB. Il a aussi permis l'éclosion d'une classe moyenne au salaire 4 fois plus élevé que la moyenne du pays. En 2017, le président Loukachenko est allé encore plus loin en signant un décret pour le développement des nouvelles technologies, rappelle IQ, un acte décisif selon la publication lituanienne qui permet de parler aujourd'hui de la Biélorussie non plus comme un pays agricole, mais comme un pays de nouvelles technologies. Le parc compte d'ailleurs aujourd'hui 883 sociétés et 63 000 salariés qui créent des services, des logiciels destinés à être vendus aux entreprises étrangères.
Paradoxalement, au contraire, en toute logique, ce secteur créé avec le consentement de Loukachenko est devenu l'un des moteurs de la contestation.
Oui, et d'après IQ, les raisons sont avant tout économiques. Loukachenko n'a jamais voulu verser un centime d'argent public pour le parc. Du coup, les employés du secteur sont indépendants de l'État et ne craignent pas de perdre leur emploi ou que leurs revenus baissent en raison de leur opposition au régime. Au total, plus de 300 spécialistes ont ainsi rédigé une lettre ouverte à Loukachenko l'année dernière, réclamant qu'ils mettent fin aux répressions contre les citoyens pacifiques. L'exemple le plus criant est par ailleurs celui de Valéry Tsepkalo, ancien compagnon de route de Loukachenko. Il a dirigé le parc jusqu'en 2017 avant d'être démis de ses fonctions. Par la suite, il a voulu participer au scrutin présidentiel d'août 2020, mais n'a pas pu être enregistré comme candidat. Après avoir déclaré craindre pour sa sécurité, Tsepkalo est parti à Moscou, puis en Ukraine. En réalité, les employés du parc non plus ne sont pas complètement protégés. Certains ont été envoyés en prison pour des détournements de fonds imaginaires en fin d'année dernière. Les entreprises, de leur côté, pensent de plus en plus à délocaliser. Comme le conclut IQ, tout le monde reste convaincu que si Loukachenko résiste cette fois-ci, il prendra sa revanche plus tard.
Merci Sacha Michel, Courrier International, Edo et courrierinternational.com, le site. On entend dans le papier d'IQ, André Ivaitovitch, une menace de délocalisation. Est-ce qu'il y a chez les jeunes Bélarussiens une tentation de quitter le pays, car le pays est quand même dans une impasse? Ou pas?
C'est déjà la réalité, en fait. Parce que là, on avait ces craintes évoquées dans le papier. C'était au début du mouvement. Aujourd'hui, il y a presque la moitié du parc des entreprises, les entreprises high-tech phares du pays, sont partis, se sont exilés soit en Ukraine, soit en Lettonie, en Estonie, en Lituanie. Donc aujourd'hui, le Bélarus n'est plus le pays high-tech parce que les entreprises partent et fuient, parce que je pense que c'était lié par rapport à Internet, parce que vous savez, dès qu'on contrôle, coupe le réseau ou baisse la vitesse, on ne peut pas travailler correctement. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, on fait le choix de partir. Je pense que ça va continuer parce que, vous savez, c'est pas uniquement les entreprises, parce que c'était bien indiqué dans le papier, c'est que ce secteur rapportait beaucoup d'argent. Ce secteur faisait vivre la capitale. On avait des endroits, mais les restaurants, les bars très modernes qu'on peut voir à Paris ou à Berlin, et tous ces établissements-là, après l'élection, qui ont participé aussi pacifiquement aux manifestations ou qui ont rejoint la grève, qui ont fermé leurs établissements pendant quelques jours, ils ont été forcés de fermer leurs portes. Donc vous voyez, c'est tout le secteur qui a été développé depuis 2015, qui est en train d'être ruiné par le régime et par Loukachenko lui-même.
Anna Kornalevitch, un mot quand même sur Alexandre Loukachenko. Comment a-t-il réussi à se maintenir si longtemps au pouvoir? Ça fait presque 27 ans. Bien sûr, évidemment, en éliminant régulièrement toute opposition. Alors, on présente aussi le Bélarus comme la dernière dictature en Europe, mais la population lui a été gré, ou en tout cas au début de son arrivée au pouvoir, d'avoir évité au pays le chaos post-soviétique qu'a connu, par exemple, la Russie voisine. Qui sont les soutiens de Loukachenko aujourd'hui?
Alors, merci beaucoup de cette question, Daniel, qui permet de comprendre les logiques profondes et se poser cette question qu'il faut se poser. On se demande pourquoi les Biélorusses protestent aujourd'hui, mais c'est aussi intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas protesté pendant toutes ces années. Hein. Et l'hypothèse répressive en elle-même, l'idée qu'une répression serait maintenue, alors d'une part, vous voyez, ça ne tient pas, hein. Un pays ne se maintient pas aussi longtemps par la répression, et d'autre part, quand on connaît un peu le pays, on se rend compte que le régime a bénéficié d'une certaine légitimité pendant un long moment, hein, pas seulement à l'arrivée au pouvoir par les urnes de Loukachenko, mais aussi, jusqu'au début des années 2010. Alors pourquoi ? Parce que par son retour en arrière, par son refus du capitalisme sauvage, mais qui allait de pair bien évidemment avec le refus des institutions démocratiques, Loukachenko a réussi à construire un système qui reposait sur un certain modèle social, avec un maintien du tissu productif, avec un maintien des services publics, avec une garantie de plein emploi, avec une stabilité de salaire, le tout associé à une certaine ouverture. Les habitants du pays ont pu voyager, n'étaient pas enfermés chez eux, Internet était tout à fait accessible. Donc en fait, en comparant leur mode de vie et le mode de vie de leurs voisins, la Russie mais aussi l'Ukraine voisine, beaucoup de Biélorusses finalement se sont dit qu'ils avaient plus à gagner qu'à perdre, hein, à rester dans un tel régime qui leur apportait stabilité, prévisibilité, mais aussi sens de leur utilité sociale. Et ils sont encore assez nombreux en fait à soutenir ce régime. Alors on peut dire le monde agricole et le monde ouvrier sont sans doute parmi les soutiens les plus puissants, mais un peu dans toutes les couches sociales, je dirais qu'aujourd'hui, selon les enquêtes dont nous pouvons disposer, un tiers de la population considère encore que ce régime a du bon, hein, que ce régime apporte plus de bienfaits qu'il ne coûte aux Biélorusses ordinaires.
Alexandre Lavignac, diriez-vous que la Biélorussie est sous perfusion économique de la Russie aujourd'hui, notamment en ce qui concerne bien sûr les livraisons de pétrole et de gaz, mais pas seulement?
D'une certaine manière, oui, parce que Loukachenko a beaucoup promis aux Russes et n'a pas fourni sur ses promesses. Mais de toute façon, une des raisons, je voudrais ajouter, de la longévité du régime, c'est le soutien presque inconditionnel de la part de la Russie à Loukachenko, qui a pu, grâce à ce soutien, bâtir son système. Et aussi, c'est une des raisons, c'est la répression qui était toujours en place de la Russie depuis 1994, depuis l'arrivée au pouvoir de Loukachenko. Il n'a cessé de serrer les vis dans le pays, donc c'était tout le temps la consolidation de son pouvoir personnel. Donc oui, maintenant, la Russie espère que Loukachenko renonce plus à son pouvoir en faveur de Moscou, non pas en faveur du peuple biélorusse, et en sachant qu'il a coupé tous les liens de communication, tous les ponts, il a brûlé tous les ponts avec l'Occident, donc la Russie semble monter la pression et elle a d'une certaine manière fait sur quoi elle peut appuyer, et surtout c'était la Russie qui en août, Poutine qui a félicité et puis rencontré Loukachenko, qui a, on peut dire, d'une certaine manière à sauver le régime.
Et Katerina Pierson-Lizina, Alexandre Loukachenko a toujours réussi, jusqu'à présent en tout cas, à jouer la Russie contre l'Union européenne et vice-versa, et il a montré une certaine habileté avec ce qu'il met toujours en avant, c'est-à-dire la souveraineté nationale de son pays.
Oui, tout à fait. Donc, depuis environ l'année 2007, c'est l'année qui marque la diminution en fait des subsides énergétiques russes, Loukachenko commence à mener une politique multivectorielle, une politique oscillante qui oscille donc entre plusieurs partenaires. Donc il engage dans ce jeu d'oscillation la Russie, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, et même pendant une courte période aussi le Venezuela. Mais en fait, il est obligé de s'ouvrir et s'engager avec d'autres pays parce que comme les subsides énergétiques russes commencent à diminuer, il doit trouver d'autres partenaires étrangers qui vont subsidier l'économie qui n'est pas en fait rentable. Et donc, on voit qu'il y a eu donc deux périodes de rapprochement avec l'Union européenne. Et la dernière période a commencé en 2015 et qui prend fin actuellement en 2020.
En accord avec les BNF, néanmoins, Alexandre Loukachenko dépend de plus en plus de Vladimir Poutine. Il a rencontré le président russe à deux reprises, notamment il y a trois semaines environ à Sochi. Selon vous, est-ce qu'il aurait pu passer ce cap difficile pour dans l'histoire de son pouvoir sans le soutien de Vladimir Poutine?
Alors, il est certain que le soutien de Vladimir Poutine a joué un rôle dans le maintien immédiat de Loukachenko au pouvoir, dans la mesure où Poutine a renfloué l'économie biélorusse en accordant un nouveau prêt qui permettra de rembourser un ancien prêt, bref, qui recule un petit peu le moment d'un possible effondrement économique. Mais je dirais que la Russie a autant besoin de la Biélorussie que la Biélorussie a besoin de la Russie. Et Loukachenko a autant besoin de Poutine que Poutine a besoin de Loukachenko, dans la mesure où il ne reste plus guère à Vladimir Poutine d'autres amis ou d'autres alliés, hein, d'autres pays alliés à sa frontière européenne. L'Ukraine a été perdue suite à l'annexion de la Crimée en 2014. Les voisins baltes, eh bien, sont partis depuis très longtemps. Et aujourd'hui, la Moldavie, avec la nouvelle présidente, va également se tourner davantage vers l'Europe que vers la Russie. Donc, en termes géopolitiques, la Biélorussie compte pour Moscou, et Moscou est prêt à pas mal de choses, non pas pour soutenir Loukachenko, mais pour garder le pays dans le giron de ses alliances.
C'est ce que Vladimir Poutine appelle de ses voeux, c'est-à-dire ça s'appelle l'état de l'union, c'est-à-dire l'idée d'une fusion entre la Russie et la Biélorussie.
Alors, la fusion entre les deux États est quelque chose qui dure depuis un bon moment déjà, où Loukachenko manie la carotte et le bâton en permanence. Il joue le chaud et le froid, tantôt en disant « mais bien sûr, nous y allons, nous ne souhaitons que ça », et puis tout de suite après, répétant « nous n'y allons que si nous resterons souverains et si nous sommes des partenaires égaux dans ce jeu hein ». C'est un outil, je dirais que c'est peut-être l'un des peu nombreux outils que le président biélorusse a à sa disposition pour jouer avec Moscou au grand énervement d'ailleurs du pouvoir russe. Donc je pense qu'il ne faudrait pas voir aujourd'hui Loukachenko comme totalement dépendant de la Russie et condamné à associer son pays et à se dissoudre dans la Fédération de Russie.
André Petrovitch, il y avait quelque chose d'assez frappant dans les manifestations de cet été à Minsk et ailleurs au Bélarus. C'était qu'il n'y avait pas de revendications anti-russes. Les manifestants réclamaient des élections honnêtes, éventuellement un recomptage, éventuellement une nouvelle élection, mais on ne parlait pas du tout de la Russie. Et pourtant, la Russie est intervenue dans ces manifestations quand les journalistes de la radio et télévision officielle ont démissionné en masse. Ce sont des journalistes de RT, Russia Today, qui les ont remplacés au pied levé. Et puis il y a eu toujours cette menace d'une intervention des fameux groupes Wagner qui sont des mercenaires à la disposition du pouvoir russe. Il y a évidemment toujours l'idée d'une menace russe sur la Biélorussie.
Je ne sais pas si c'est ce que les gens ressentaient sur place, en fait, parce que c'est vrai que ces manifestations n'étaient pas ni anti-russes, ni pro-l'Europe. C'était vraiment les manifestations pures et dures belarusses qui demandaient une seule chose, une nouvelle élection libre, transparente, et que la répression, les violences soient arrêtées immédiatement. Donc après, effectivement, on a vu dès le début, avec les premières grèves à la télévision officiel que le journaliste partait et ils étaient tout de suite remplacés par les journalistes qui ont été recrutés en urgence et bien sûr qui sont venus de Moscou, de Russia Today. Donc la propagande continue à fonctionner malgré tout parce que la greffe n'a pas réussi malheureusement, n'a pas donné ses fruits à l'intérieur à cause de la répression. Mais en tout cas, ce que je pu témoigner moi-même en voyageant dans d'autres villes, dans la ville où je suis né. C'est une ville qui est à 3 heures de Minsk.
Quelle est-elle?
Svetlogorsk. Donc c'est une ville qui est voilà sur la Bérézina et c'est une ville industrielle assez pauvre. Et dans cette ville, moi, quand je parle aux gens dans les rues, au marché, avec mes anciens professeurs au lycée, etc., ils ne regardent plus la télévision. Les gens au Bélarus sont très connectés. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils suivent l'actualité sur Internet. Donc aujourd'hui, moi, je n'oserais pas dire que les gens regardent encore la propagande. Certes, il y a quelques cas, une toute petite minorité dans les villages, par exemple, mais pas enfin, mais encore, hein, tout dépend. Mais en majorité, les gens ne font plus confiance et ne dépensent pas leur temps parce qu'ils savent que voilà, c'est du fake et ça fait plus aujourd'hui rire, davantage rire que de voir cette information comme correcte, indépendante ou vrai. Donc vous voyez, aujourd'hui les gens sont partis sur les réseaux et notamment les chaînes Telegram.
André Mijatovic, lorsque Vladimir Poutine parle de la Biélorussie, il dit c'est un pays qui n'existe pas. Et donc pour lui, il y a effectivement une logique à ce qu'il soit rattaché à la Russie. Et dans Biélorussie, il y a évidemment le mot Russie, Russie blanche.
Exactement, je pense que c'est sur le point, ce point linguistique, il faut dire que les Bélarusses aujourd'hui ne veulent pas veulent avoir un pays indépendant et ne faire pas partie de la Russie. Je pense que je suis d'accord avec Anna qui disait tout à l'heure que pour Vladimir Poutine, pour Moscou, il est très pratique et très important d'avoir ce pays aujourd'hui, ce pays tampon entre l'Union européenne, entre l'OTAN et la Russie. Vous savez, sur le territoire belarusse, on a quatre bases militaires russes. Donc la Russie, elle est déjà là. Donc on ne parle pas d'une ingérence, parce que l'ingérence se produit depuis l'arrivée de Loukachenko au pouvoir. Et depuis cette... depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir et cette relation qui a commencé entre lui et Loukachenko. Donc les gens, effectivement, cet été, on avait des images de chars russes à la frontière belarusse, près de Smolensk, etc. Donc je pense que c'était les tentatives d'intimidation ou de pour l'opposition, pour les gens dans les rues, pour dire que voilà, on est prêt d'intervenir. Et Vladimir Poutine a d'ailleurs promis, au cas où, il est prêt à envoyer ses polices, ses forces de l'ordre, si besoin, si Loukachenko le demande. Donc ça, c'est pas fait. Aujourd'hui, il y a des investigations, des enquêtes en cours par rapport à ces mercenaires russes ou anciens Berkout d'Ukraine qui ont dû fuir après Maïdan. Vous savez, moi, lors d'une manifestation, j'ai filmé une marche des femmes qui a eu lieu tous les samedis cet été. Et lors de l'arrivée des forces de l'ordre, ces fameux les hommes en vert, on était encerclés. Donc j'étais entouré par ces hommes. J'étais avec toutes les femmes qui ont fait tout de suite une sorte de chaîne humaine pour ne pas, voilà, pour ne se pas laisser faire, pour ne pas partir. Et moi, je commence à dire, je suis journaliste, etc. Et on voyait que les gens étaient, les hommes en vert étaient perdus. Et pour certains, mes collègues disaient, mais ils ont un accent, c'est pas les Bélarusses. Donc aujourd'hui, 6 mois après, on commence à avoir déjà récolté ces petites preuves à gauche et à droite. Et je pense que ça prendra encore du temps. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de soupçons sur les mercenaires qui ont été recrutés, notamment pour les premières nuits qu'on a vécues, les nuits atroces de torture dans les centres de détention.
Alexandre Lavignette, le peuple russe, le peuple biélorusse partage une culture commune, un alphabet, une langue, une histoire commune, même si la langue biélorusse progresse, et vous y avez déjà fait référence, qu'est-ce qui différencie les deux peuples et qu'est-ce qui les rapproche?
Bon, je ne suis pas d'accord qu'on partage la même culture et la même histoire non plus. Donc l'histoire était différente, la culture aussi. Donc notre histoire, c'est une histoire européenne, sans le despotisme. Et notre nation a réclamé ce droit d'avoir son indépendance avec la fin de l'Empire russe, mais même auparavant, donc le Bélarus a été envahi par les Russes fin du XVIIIe siècle. Et c'est justement cette, on peut dire, narrative, cette version de l'histoire qui devient de plus en plus reconnu et répandu au Belarus. Et c'est ça ce que Loukachenko et le Kremlin ne peut pas accepter, c'est la montée en puissance d'un patriotisme belarussien et qui est véritablement démocratique. Donc je dirais pas que c'est une vision qui a été, on peut dire, imposée par d'abord l'historiographie russe tsariste, mais par la suite par l'Union soviétique, que les Bélarussiens, les Russes sont le même peuple, etc. Donc ça c'est différent.
Anna Kolna-Lebedev, on s'achemine au terme de cette émission. Est-ce qu'une intervention militaire de la Russie vous paraît possible si le Bélarus s'éloignait de la Russie?
Alors, je ne vais pas regarder dans ma boule de cristal parce que c'est très difficile de prévoir. J'aurais tendance à dire que depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, on peut s'attendre à toutes sortes de surprises et retournements géopolitiques dans une Russie qui joue de plus en plus en fait à l'international plutôt qu'à l'intérieur de son pays. Je dirais aussi que aujourd'hui, l'intérêt du pouvoir russe n'est pas de maintenir Loukachenko en place, mais de jouer la suite. Il y a des signaux qui sont donné par Moscou à Minsk en disant qu'il serait temps que le leader parte à la retraite. Aujourd'hui, j'imagine que le jeu politique de Moscou consiste à s'assurer que la personne qui arrivera au pouvoir, qui succédera à Alexandre Loukachenko, soit davantage tournée vers Moscou que tournée vers l'Union européenne. Et en ce sens, Svetlana Tikhanovskaya apparaît bien évidemment comme une très mauvaise candidate à Moscou. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un retournement de situation? Extrêmement difficile de prévoir aujourd'hui.
On va terminer avec vous, Andrei Vatovitch. Les marches de protestation vont-elles reprendre au printemps, quand les neiges seront fondues, ou pas? Et quelle est la marge de manœuvre de l'opposition aujourd'hui?
Je pense que tout le monde attend le printemps. Les gens étaient épuisés et l'hiver, c'était une sorte de... retrouver les forces. J'ai quand même tendance à dire que les gens sont de plus en plus oubliés. La répression continue. On sait qu'aujourd'hui, c'est non-stop. Tous les jours, on a des arrestations. C'est vraiment devenu de la répression des masses.
Alors, est-ce que dans ces conditions, la protestation peut reprendre?
Je crois parce que de plus en plus les gens disent que on est oublié et malheureusement comme on disait au début de l'émission, il y a les pays voisins qui sont proches parce que on a la culture commune avec la Lituanie, avec la Pologne, etc. Et aujourd'hui c'est je dirais les seuls pays européens qui font quelque chose de concret. Parce que, certes, la clé de cette crise se trouve à l'intérieur. C'est le peuple belarusse qui devrait choisir son sort, son futur, construire le nouveau pays. Mais le soutien est très important. La solidarité internationale est très importante. Et quand on voit aujourd'hui les chiffres depuis le 9 août, que plusieurs dizaines de milliers de Belarus ont dû partir, ont dû s'exiler dans les pays voisins, c'est quelque chose de dramatique. On n'en parle pas, mais aujourd'hui, il y a des réfugiés belarusses qui se trouvent dans les centres des réfugiés et qui en 2021, au cœur de l'Europe, fuient le régime atroce.
Ne pas oublier le Belarus. Merci à tous les quatre d'avoir été au carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Sacha Michel du Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce carrefour de l'Europe, RFI.fr, rubrique podcast, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de l'émission via votre plateforme préférée, par exemple Google, Apple ou Deezer. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquels, où que vous soyez, à Minsk, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Radio Foot International. Aujourd'hui.